Vous écoutez RTL.
Comment vivaient nos ancêtres? À quoi ressemblaient leurs lieux de vie, cabanes, grottes? Et puis les maisons, après quand sont-elles apparues? On vous raconte des millénaires d'évolution de l'habitat avec notre invité, l'auteur Cécile Guibert-Brussel. Bonsoir et bienvenue.
Merci, bonsoir.
Alors on va commencer par les tout premiers habitats. On a décidé de faire quelque chose de chronologique parce que c'est ça qui est croustillant. Allez. D'imaginer comment tout a commencé.
On remonte jusqu'où alors?
Ah, 40 000 ans, ah, vous oui. Imaginez. On est déjà allé plus loin, mais là c'est pas mal. Où les hommes préhistoriques se sont-ils installés?
Alors, c'est au Paléolithique, il y a 40 000 ans, et c'est la vallée de la Vézère, en fait, qui ne ressemble pas du tout à la vallée de maintenant, puisqu'en fait, c'est une steppe à mammouths, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forêt, et les animaux sont des mammouths, des bisons, et il n'y a pas de grandes rivières, comme vous voyez en Dordogne actuellement, mais des petits ruisseaux qui sont partout. C'est là où ils se sont installés les premiers.
Ils s'installent parce qu'il faut bien se couvrir. L'homme a toujours voulu se protéger du ciel, des animaux sauvages. Ils vont s'installer dans des abris naturels. C'est quoi un abri naturel?
Alors, en fait, il y a beaucoup. La période climatique fait qu'il y a beaucoup d'alternance entre des périodes où il y a beaucoup de gel et de dégel. Donc, les falaises éclatent, ce qui crée des abris sous roche à l'orée en fait de la falaise. Donc, ils s'installent là parce que ça les protège, de la pluie, de la neige, mais ils bénéficient d'une lumière naturelle. En fait, c'est pas au fond des grottes comme on a l'habitude de le raconter dans les livres où on va au fond de la grotte. Non, là, c'est impossible. Ils sont vraiment à l'entrée de la falaise.
Bon, alors, il paraît que le déménagement est une des pires causes de stress pour nous aujourd'hui. Bah, préparez-vous parce qu'on va se faire 40 000 ans de déménagement, là. L'habitat en France depuis 40 000 ans. C'est parti sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est en Mésopotamie, il y a 5000 ans, que naissent les premières villes. En France, c'est à partir du XIIe siècle que la pierre remplace peu à peu le bois, jugé trop fragile face aux incendies.
Sidonie Bonnec.
Au XIXe siècle, Paris subit d'importantes transformations menées par le baron Haussmann.
Si votre défaut, c'est la curiosité.
Le XXe siècle est marqué par l'exode rural et le développement des villes.
Alors vous êtes bien sur RTL.
On remonte le temps et on visite nos lieux de vie, nos lieux d'habitat, dans la curiosité avec l'auteur Cécile Guibert-Brussel. Alors, il y a 40 000 ans, vous nous l'avez dit, les hommes préhistoriques s'installent dans une vallée et ils se couvrent parce qu'ils ont besoin de se mettre à l'abri. Ils se mettent dans des abris naturels qui ne sont pas des grottes, mais il y a bien quand même certains humains et certains hommes et certaines femmes et hommes qui ont fréquenté ces grottes puisqu'elles ont été dessinées notamment.
Voilà, en fait, les peintures apparaissent effectivement dans ces grottes, mais aussi dans ce qu'on appelle les gouffres, et on peut en visiter dans la vallée, mais c'était plus les peintures, plus des œuvres d'artistes, entre guillemets, mais qui ne faisaient pas partie de leur quotidien.
Ah, c'était des squats d'artistes, les grottes, en fait.
Voilà, ils allaient dans les grottes, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils allaient très profondément pour peindre, mais pour l'habitat, on est vraiment devant la grotte et on n'est pas à l'intérieur.
Ces habitats, ils les quittent souvent? On est dans une période de mode de vie nomade, ou alors est-ce qu'ils y vivent une grande partie de leur vie?
Alors en fait, on a beaucoup dit qu'ils voyageaient beaucoup, mais pas tant que ça. En fait, on peut considérer que cet abri-là, c'est leur abri stable. Après, ils sont obligés de cueillir des baies ou je ne sais quoi, des plantes sauvages, de pêcher et de chasser. Donc, ils partent à ces moments-là, ils installent des campements.
Mais
Avec des tentes, voilà. Mais il y a des campements très provisoires s'ils vont pêcher un jour, le jour où le saumon passe, je vous dis n'importe quoi. Là, c'est un campement provisoire, mais il y a des campements où ils vont vraiment suivre un animal longtemps. Et là, ils installent des campements sur des longues périodes. Mais on peut considérer que l'abri sous roche, c'est l'abri où ils reviennent.
Je parle des tentes,
ouais,
mais...
C'est quoi une tente à l'époque?
Alors, pas la quechua qui s'ouvre en 30 secondes.
Voilà, ils ont inventé des tentes qu'ils pouvaient porter sur leur dos et déplacer. Donc, ils la conservaient. Donc, pour qu'elles tiennent, ils prennent des piquets, des morceaux de bois, qui font tenir grâce à des galets tout autour, qu'ils attachent en haut. Et ils ont inventé l'aiguille à coudre. Donc, ils ont des tendons d'animaux qui font office de ficelles, par exemple. Ouais. Et ils cousent des peaux de rennes entre elles. Ils les font par plusieurs parties afin qu'on puisse vraiment les porter en les pliant. Et ils vont comme ça, et ils montent au fur et à mesure leur tente, au fur et à mesure de leur déplacement.
Bon, alors là, avec la tente, on n'est quand même pas loin de l'habitat, de la maison. Quand les premières maisons vont apparaître et comment elles vont être fabriquées?
Alors, les premières maisons, c'est le néolithique. On est passé de 40 000 ans à 10 000 ans. Bon, un peu bon, moins.
On a un bon accélérateur.
Et il conduit bien, Thomas. Ouais. Voilà. Il s'est conduire aujourd'hui.
Conduite sûre, ne inquiétez pas.
Voilà. Et alors là, le problème... Alors, en fait, les hommes inventent l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi se nourrir devant eux. Mmh. Mais ils ont quand même une priorité pour leur habitat, c'est d'avoir une forêt à côté pour construire les maisons et des rivières pour pouvoir boire. Enfin, l'eau est indispensable à leur vie. C'est pour ça qu'il y a pas mal de villages lacustres au bord de l'eau. Donc, ils vont construire des maisons entièrement végétales, parce que voilà, à l'époque, c'est comme ça, et des maisons sans portes, ni fenêtres, qui sont des maisons très sombres, où ils logent en général à quand même 30 ou 40 personnes dans la maison.
Ah oui, donc c'est très grand.
C'est très grand, ça peut faire 20-30 mètres et 6 mètres de large, on est quand même dans un habitat collectif.
L'idée, c'est de se chauffer, c'est ça, non?
D'être 45 ans. Se chauffer, bon, en fait, c'est des premiers petits villages, voilà, et en fait, mais c'est un peu ça, parce que...
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter, Sidonie?
Non, mais j'imagine qu'on a froid, là, voilà.
Des orgies dans le néolithique.
Non, mais où elle n'a pas tort, c'est comme au paléolithique, comme au néolithique, les lits, puisque voilà, sont installés au fond de l'habitat et ils inventent des sols, ça peut être, je ne sais pas moi, des galets, des feuilles, pour se protéger et ils dorment tous au fond de l'habitat pour être le plus protégés et le plus se tenir chaud. Voilà, mais alors ils se chauffent pas, il y a du feu pour cuire et ils ont toujours besoin d'un foyer pour là, parce que au paléolithique, le foyer de feu est hors de l'habitat, alors que là, il est dans l'habitat, mais imaginez bien qu'il n'y a pas de cheminée, qu'il n'y a pas de fenêtre, donc la fumée, ben, c'est sombre, et la fumée, elle est dans toute la maison et elle passe à travers les feuilles, mais c'est quand même des habitats, je pense, pas très agréables au quotidien.
Cécile Guibert, Bruxelles, vous publiez ce livre « Où vivent les hommes, une histoire de l'habitat », c'est aux éditions du Patrimoine, avec les dessins de Lise Herzog. Il est bien fait ce livre, c'est un livre pour adultes et pour enfants?
Oui, bah j'espère. En fait, c'est un livre, c'est un classique de jeunesse où on voit les immeubles découpés et c'est un livre dont j'ai toujours rêvé. Donc, je suis contente de pouvoir l'avoir fait. Et en fait, Lise, elle a fait un travail fabuleux parce que c'est parfois difficile. Il faut dessiner d'après des tableaux, d'après des images d'archives. Il ne faut pas se tromper sur les vêtements, les moyens de locomotion. Et elle a fait un travail mais extraordinaire.
Ouais. Extrêmement détaillé.
Et on y voit le mode de vie des Gaulois. Est-ce qu'on est chez Astérix ou alors est-ce que c'est très différent?
Il y a Jules César, en tout cas, qui est passé trois fois à Bibracte. Alors, en fait, c'est un village un peu particulier. Bibracte, c'est ce qu'on appelle un oppidum. Ouais. Donc, c'est un village fortifié qui a été construit en haut d'une colline. Parce que tous les villages fortifiés étaient de quoi voir l'ennemi arriver de loin, etc.
Donc, il y a des murs en pierre et du bois en haut.
En fait, la colline fait office de mur en pierre, mais ils ont construit ce qu'on appelle un murus gallicus, je crois le terme, en fait, qui est une sorte de fortification qui mélange de la terre, des pierres, du fer, etc. Alors, donc, ce village, il a toute une partie qui est une partie dans l'habitat gaulois. Donc, c'est de la terre et c'est un habitat assez primitif. Mmh. J'aime pas dire primitif, pardon, mais enfin. Et l'autre
sommaire, simple,
où il y a tous les artisans, etc. Et en fait, il y a l'invasion romaine qui passe par là, pour faire très bref. Et du coup, toute une autre partie du village est sous influence romaine. Donc, Bibracte, c'est vraiment un site intéressant à visiter.
Mais ça veut dire quoi, l'influence romaine? C'est-à-dire des maisons en pierre, là, pour le
voilà,
coup?
Voilà, là, on arrive avec la vraie maçonnerie, les tuiles, la pierre, et même parfois sur des villas, comme on va voir un peu plus tard, on a des vitres, ce qui est assez rare d'avoir des vitres aux fenêtres.
Mmh. Comment on entrait dans cette ville de Bibracte, là? On essaye de se projeter. Il y avait quoi? Il y avait une porte, un pont-levis, c'est peut-être pas l'époque, mais comment on entrait dans cette ville?
Mais c'est pas un pont-levis. En fait, il faut savoir que les Romains construisent les premières voies romaines, qui sont les premières routes. On voit qu'il y a des pavés au sol. Et ils vont réguler la circulation et évidemment réguler le passage des ennemis. Donc il y a ce qu'on appelle des bastions, tout un système de fortifications où on peut tirer, la lutte armée, on va dire. Et puis il y a un système de régulation des charrettes où on passe à droite, à gauche, on est séparé par des poteaux, comme un peu la circulation actuelle qui est déjà prévue.
Et dans ces villages gaulois, il y a des habitations, puis il y a des commerçants aussi, et des artisans qui ont des boutiques ouverte sur la rue?
Voilà, dans les quartiers d'artisans. Alors, ils se séparent selon le type d'artisanat. Et les maisons et l'habitat et l'artisanat, c'est la même chose. Donc, ils ont une échoppe qui ouvre sur rue, qui est ouverte. Et la maison est à l'arrière. Et c'est pareil, une maison sommaire, un peu, où pareil tout, il n'y a pas de fenêtre. Enfin, le sol est en terre battue. On reste dans une maison plutôt difficile
à vivre. Et il y a des forgerons, des bronziers, voilà, des orfèvres, des frappeurs de monnaie. Dans un instant, on poursuit notre visite de ces gigantesques villa gallo-romaine dont on a parlé il y a quelques instants. C'est la transition avec les Romains qui offrent
moi,
de nouveaux
visiter,
habitats.
Hein. Je vais me faire inviter dans une villa.
Vous êtes bien habillé? Vous avez mis votre toge?
Très bien habillé, moi.
Bon, bah, très bien, moi j'y vais toute nue. Allez, à tout de suite, les curieux.
Chouette.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Comment se loge-t-on en France depuis 40 000 ans ? Voilà le défi que l'on relève dans la curiosité sur RTL avec notre invité, l'auteur Cécile Guibert-Bruxelles. Donc on a avancé hein, dans le temps, parfois un peu vite. Là, on est à l'époque gallo-romaine et on veut absolument visiter ces villes-là. Alors déjà, elles appartiennent à qui ?
Alors, c'est des grands propriétaires terriens, on dit le maître à l'époque. Mmh. Et en fait, la villa, quand on parle en Italie, c'est une maison de ville, mais quand on parle en France et à cette époque, en fait, il y a une exploitation agricole et la villa du maître qui contient jusqu'à 200 pièces. Donc, vous voyez, la villa du maître en impose quand même.
C'est gigantesque.
Voilà, hein. C'est gigantesque parce que toute la partie de l'exploitation agricole contient même des artisans. Il y avait beaucoup d'esclaves à l'époque, il faut le dire aussi. Enfin, c'est vraiment des lieux démesurés.
Alors, je disais que je voulais me rendre dans cette villa gallo-romaine toute nue. C'était pas pour rien, je suis pas folle. Parce que je vois dans votre livre
un dessin de terre. Tout à l'heure, vous vouliez qu'on se frotte dans les grottes du néolithique et maintenant qu'on rentre tout nu.
On peut se faire du bien, vous savez.
Non, mais moi, je suis partant, mais bon, quand même.
En tout cas, oui, si je parlais de nudité, c'est parce que dans ce livre que vous publiez, Où vivent les hommes, avec les dessins de Lise Herzog, aux éditions du patrimoine, on voit dans cette villa gallo-romaine des thermes avec des gens nus dedans.
Voilà.
Moi, je me dis, tiens, c'est l'occasion de faire quelques brasses.
Exactement. Alors, l'objectif, c'était pas nager. Enfin, peut-être qu'y nager. Mais à l'époque, les thermes, c'était très rare d'avoir des thermes dans une villa privée, puisqu'on parle d'habitat privé, il fallait être extrêmement riche. Et en fait, elle contenait une bibliothèque, une salle de sport, et les thermes du plus chaud au plus froid, et où ils venaient se laver, se faire masser, enfin tout un tas de choses. Voilà.
Mais attendez, s'il y a des thermes chauffés, ça veut dire qu'il y avait du chauffage dans ces maisons ?
Exactement. Alors, ils avaient inventé l'hypocauste, qui était un système en sous-sol, où les esclaves venaient amener des bûches. Enfin, il y avait une espèce d'âtre où on faisait chauffer en permanence un foyer de feu. Et par des pilettes de briques, si vous voulez, et des tuyaux dans les murs, enfin, ce n'était pas des tuyaux, on chauffait l'ensemble et ça passait sous les bassins, ça chauffait aussi les bassins. Donc ça, c'était vraiment extrêmement sophistiqué et novateur à l'époque.
Et rare, peut-être. J'imagine
très
des
rare.
Villas comme celle qui est décrite dans le livre, ne devait pas y en avoir beaucoup en
non,
France.
Non, il n'y en avait pas beaucoup. Bah, il faut savoir que c'est comme Bibracte.
On est à quelle époque, pardon ?
On est il y a 2000 ans.
Oui, d'accord.
Voilà. Et on est quand même, c'est des sites archéologiques.
Et les Romains un peu pauvres, ils vivaient dans quoi à cette époque ? Dans quel type d'habitat ?
En fait, le type d'habitat qu'on a vu
même pas
en
pauvre,
oui, voilà, la terre, la chaume, ouais. C'est un habitat qui va perdurer, même dans les campagnes, très très longtemps, je veux dire, avant qu'on puisse habiter. Alors, on ne parle pas des châteaux, etc., mais dans de la pierre, vraiment, même de la brique, il peut se passer du temps, surtout dans certaines régions.
Alors, on va recommencer, on va mettre un petit coup d'accélérateur.
Un petit saut dans le temps, j'accélère, ok, on y va.
On file au Moyen-Âge, on va découvrir que les petites villes sont créées. Et d'ailleurs, le nombre de petites villes explose. Et dans ces petites villes, on y découvre des bastides.
Voilà, les bastides. Alors, les bastides, c'est le sud-ouest de la France. Mmh. C'est Louis IX qui va décider de créer des villes neuves, on les appelle. C'est ça, les bastides. Et en fait, c'est des regroupements, entre guillemets, économiques, où il y a des paysans, des artisans, une forme d'administration. Et ils vont en construire quand même, enfin en bâtir, pardon, 400.
Une forme d'administration, ça veut dire qu'il y a des règles, il y a un règlement de vie commune dans ces bastides.
Voilà, ils inventent des chartes de fondation. Donc au début, il y a zéro habitation, il y a ce qu'on appelle des arpenteurs. Donc on est, voilà, c'est la zone vierge. Et on le verra dans le livre, parce que ça arrive plusieurs fois dans l'histoire. Et les arpenteurs, la charte de fondation, en fait, vous donne un terrain, tout le monde le même. Vous êtes exempté d'impôts. Alors ça, c'est un peu vrai, mais un peu faux, parce que tout le monde entretient le pont. Enfin, bon, voilà, le exempté d'impôts. Et vous êtes libre. Si vous êtes un serf, S-E-R-F, là, ça y est, vous êtes un homme libre. Ce qui, à l'époque, est quand même important.
Donc, cette bastide du Moyen-Âge, elle s'organise autour d'une place carrée qui est entourée de 8 moulons. C'est quoi, les moulons ?
Alors, il y a une place carrée et il y a une halle au milieu. Donc, c'est pas l'église au milieu. Ça, c'est un changement. L'église, elle est excentrée.
Ah non, c'est le commerce au milieu.
Voilà, c'est le commerce, exactement. Ça, c'est nouveau. Et les moulons, donc comme on a dit, il y a des arpenteurs qui calculent tout. Les moulons, c'est comme un regroupement de maisons qui forment un carré. Et il y a en général 8 moulons, c'est très précis. Donc autour de cette place principale et l'atelier, en fait, si vous voulez, l'endroit où le beffroi, on l'appelle, contient une cloche. Et c'est pas la cloche de l'église, c'est la cloche du village qui a les mêmes fonctions, mais symboliquement, c'est le village qui sonne la cloche.
Alors le beffroi, pour moi, c'était plutôt le nord, donc il y a des beffrois aussi dans
oui,
ces bastides
voilà,
du sud-ouest.
Voilà, le beffroi, c'est au-dessus de la halve, si vous voulez, il y a une cloche qui sonne et comme un petit clocher.
Il y avait beaucoup d'habitants dans ces petits villages. Ça représente combien de personnes pour se faire une idée ?
J'ai aucune idée de combien de personnes, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'habitants qu'avant. Il peut y avoir quand il y a des fermes isolées. Enfin, les premiers regroupements de personnes, c'est quand même important. Par exemple, Bibracte, on est à 5 ou 10 000 personnes à peu près.
Vous êtes intéressé dans ce livre « Où vivent les hommes ? Une histoire de l'habitat » publié aux éditions du Patrimoine. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on prend une région, un endroit, et on le voit vraiment évoluer au cours des siècles et des millénaires?
Alors, j'ai travaillé sur les régions, parce que les monuments historiques, c'est 96 monuments dans toute la France. Ouais. Donc, j'ai essayé quand même de relier le livre à certains de leurs monuments dès que c'était possible, parce que c'était intéressant.
Parce que là, on est beaucoup dans le sud-ouest quand même.
Exactement, on est beaucoup dans le sud-ouest. Mais en fait, après, quand on travaille sur l'habitat, il y a un habitat pauvre, il y a un habitat des aristocrates, des familles nobles, il y a un habitat rural, un habitat urbain. Donc, à chaque fois, on est confronté à des régions, mais aussi à divers types d'habitats. Voilà.
Au XVe siècle, c'est la maison gothique qui fait son apparition. Alors moi, je découvre complètement ça. C'est quoi? À quoi ça ressemble?
En tout cas, quand on parle de gothique, on parle surtout de cathédrale.
Oui,
donc la maison gothique, il n'y en a pas beaucoup. Et celle-là...
J'ai la famille Adams qui m'arrive dans... Non, mais c'est vrai, l'image que j'ai de ce gothique, coup, c'est la famille Adams.
C'est pas très... Là, c'est la cathédrale.
Alors, c'était quoi la maison gothique?
Le mouvement gothique, si vous voulez, c'est un mouvement après l'art roman qui est un art du XVe. Et en fait, Jacques Cœur, qui est un homme milliardaire, on va dire, extrêmement riche, va se construire ce qui sera le plus grand palais gothique en France, à Bourges. Donc, gothique, ça veut dire quoi? C'est des grandes ouvertures. Là, roman, on est dans des petites fenêtres. Là, on est enfin dans des grandes fenêtres.
Ah, de la baie vitrée, presque.
Voilà, de la baie vitrée. Enfin, lui, on a du vitrail, surtout. Ouais. On a enfin la possibilité d'avoir des grandes hauteurs de plafond. Là, roman, les murs, tout, c'est difficile. Là, on peut enfin avoir une immense hauteur de plafond. Et là, roman, on est dans l'austérité. Là, vous n'avez qu'à voir les décors. Il y en a partout. C'est sculpté. C'est quand même...
Mais ça reste, ces villas d'art gothique, des maisons d'aristocrates, de riches.
Ah oui, palais Jacques Cœur, c'est l'argentier du roi, c'est la plus belle flotte de navires à l'époque. C'est très rare de pouvoir trouver un palais gothique comme ça en France.
Mais il y est vivait, à Bourges. Il y vivait dans ce palais?
Alors, il a mis très longtemps à le construire. Ensuite, il a été accusé d'escroquerie. Il a fui, il a été emprisonné, on lui a saisi ses biens, donc il n'a jamais réellement vécu dans son palais.
Des immeubles haussmanniens, des maisons catalogues de banlieue, des HLM, des HBM aussi. On fait le tour de l'architecture parisienne dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi.
Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce serait ma maison. Même à Fort-Loyer, je suis preneur.
Soyez fiers d'être curieux.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité.
On est bien entre curieux. Sur RTL.
La maison près de la fontaine, Nino Ferrer. La maison du bonheur, Francis Lalanne. Viens à la maison, Claude François. Et la maison où j'ai grandi, de Françoise Hardy. On y vit, on y reçoit nos amis, nos familles, on y élève nos enfants. On parle de notre habitat, de l'histoire de notre habitat depuis 40 000 ans avec l'auteur Cécile Guibert-Bruxelles qui publie un très joli livre avec des dessins très joli, c'est ces coupes qu'on aime bien là où les habitats sont coupés en deux et on a la chance de pouvoir voir comment c'est et à l'extérieur et comment la vie s'organise.
On est un peu voyeur de ce qu'on voit à l'intérieur.
On adore ça. on a commencé avec le néolithique, le paléolithique, le néolithique. On a fait un petit tour par le Moyen-Âge et puis là on arrive au 19e siècle avec l'arrivée l'arrivée de l'haussmannien. Quelle est l'idée qui régit cet habitat haussmannien qu'on trouve évidemment à Paris?
Alors, on est dans un Paris très insalubre. Il y a des villes comme Londres qui ont déjà été en partie rénovées et Napoléon III confie à Haussmann de rénover la ville. Il détruit 20 000 maisons, pour vous donner quand même l'état
de... Une grande partie de la ville.
Une grande partie de la ville. Il crée 140 km d'avenues, je crois. Enfin, il y va franco. Et l'idée, c'est quand même que Paris ait moins de maladies, qu'il y ait... enfin, voilà, que ça soit... et qu'on puisse circuler, parce qu'on ne pouvait pas circuler dans Paris. Donc, il dit, bon, bah, les immeubles vont être tous pareils. Donc, il y a une largeur de rue, selon la largeur de la rue, une hauteur d'immeuble. Ça, c'est le début. Et après, rien ne doit dépasser. Les longueurs doivent être, les immeubles doivent être bien plats, bien alignés. Tout doit être vraiment parfaitement au cordeau.
Et avec une organisation par classe sociale.
Exactement.
Étage par étage.
Étage par étage. Alors, l'entresol, c'est ou la concierge ou des commerçants. Mmh. Et après, on monte. Premier étage, deuxième étage. Tout est très beau en façade comme à l'intérieur. Et puis, plus on monte, après, plus on finit sous les combles où là, c'est vraiment les domestiques. Et il y a ce qu'on voit de la rue, c'est-à-dire des très belles immeubles, ce qu'on appelle en pierre de taille bien taillée. Et puis, il y a ce qu'on voit dans la cour, qui sont des pierres de mauvais usage, beaucoup moins belles, où il n'y a pas de lumière et où là, il y a l'escalier, les pièces des domestiques et tout l'intérieur de la cour est beaucoup moins beau.
Et quand on regarde bien les immeubles haussmanniens, il y a une différence de taille entre un appartement du premier étage et du deuxième étage, c'est ça si je ne me trompe pas, de hauteur sous plafond.
Voilà, alors premier, deuxième étage, c'était les belles hauteurs sous plafond parce qu'on n'avait pas d'ascenseur, donc il ne fallait pas entendre le bruit de la rue, mais il fallait quand même pouvoir monter à pied. Mmh. Et après, non seulement il y a moins de hauteur sous plafond, il y a moins de pièces, et puis après on est sous comble, il n'y a plus du tout de hauteur.
Ouais. Donc, on dit immeuble haussmanniens, évidemment ça a été, c'est l'histoire de Paris. D'abord, oui. Mais ensuite, ça a été, je crois, parce qu'on a déjà fait des émissions sur l'œuvre du baron Haussmann, ça a été un modèle pour d'autres grandes capitales régionales françaises.
Ah bah oui, après l'immeuble haussmannien, il y en a à Lyon, il y en a partout, voilà, on l'a trouvé partout, puis il a inventé aussi tout le mobilier urbain qu'on a retrouvé, les bancs, le colonne Maurice, les lampadaires en extérieur, enfin c'est vraiment tout un principe urbain, presque d'urbanisme qu'on va retrouver partout.
Oui, donc c'est une histoire parisienne et française par
Exactement.
Extension.
Comme l'exemple qu'on va découvrir maintenant avec les HBM, histoire parisienne qui va s'exporter aussi. Ce sont quoi les HBM ? On a oublié un peu ce mot, cet acronyme ?
On a oublié, sauf si on va sur le boulevard des Maréchaux, c'est ce qu'on appelle la ceinture rose. Et là, tout de suite, ça nous parle parce que c'est les immeubles en briques rouges.
Donc, ce sont les habitations à bon marché.
Habitations à bon marché, voilà. En fait, c'est assez... Ça, on est vraiment dans une histoire dont on parle peu, mais qui est intéressante. On sort de la guerre 14-18, il y a encore... L'insalubrité de Paris est encore vraiment très importante. Mmh. Et il y a surtout le problème de la tuberculose et du choléra. Et il faut absolument que les habitations soient plus propres, mais qu'il y ait de la lumière et du soleil. Donc, en fait, à l'époque, il y a encore une ceinture de fortifications dans Paris que la ville rachète. Et c'est là qu'ils décident de construire ces HBM.
Qui sont destinés à qui ?
Alors, c'est destiné aux populations en général ouvrières. Ouais. Et parfois, ce sont aussi des entreprises privées qui les font construire. Donc, on a parfois des services un peu sociaux en dessous pour tout le monde.
Elles ont quel style, ces habitations bon marché ?
Alors, c'est le début des arts déco. Donc, on est en briques rouges, mais il y a une décoration parfois. Les beaux windows, des sculptures en façade.
C'est quoi les beaux windows, déjà ?
Les beaux windows, c'est comme des vérandes. Des grandes fenêtres, vous voyez, qui sont en saillie sur la rue. Et surtout, vous avez, contrairement aux haussmanniens où vous traversez par la loge du concierge pour arriver dans la cour, là, vous avez la cour qui est sur rue. Donc, il y a de l'air, de la lumière dans les appartements. Et pour la première fois, l'eau qui arrive, les sanitaires, tout ça, c'est une grande nouveauté.
Est-ce que ces habitations à bon marché sont l'ancêtre des HLM ?
Exactement. Sauf que les HLM...
C'est la première version.
C'est exactement la première version. Sauf que les HLM, c'est entièrement public, ce qui n'était pas forcément toujours le cas des HBM. Et les HLM sont beaucoup plus excentrés que les HBM, parce que les HBM, vous bénéficiez encore du centre de Paris. Les HLM, on invente les banlieues, l'habitat beaucoup plus lointain et qui est quand même de moindre qualité.
Et puis, il y a aussi dans votre livre publié aux éditions du patrimoine, les maisons catalogues. Alors, c'est quoi ça, les maisons ? On est plutôt années 60-70, c'est ça ?
En fait, il y a des premières maisons catalogues, mais on va le voir dans les pavillons des années 30, mais qui étaient réservées aux gens extrêmement riches. Ouais. Et dans les années 60-70, il y a les maisons catalogues. La maison catalogue, c'est les premiers lotissements où vous choisissez sur catalogue votre maison. Oui. Donc tout le monde a un peu la même et surtout il y avait parfois, surtout dans les années 30, une mode régionaliste. Donc ils construisaient des pavillons type basque, type breton, tout le monde avait son type de pavillon.
Oui, moi je suis né en 66, j'ai vécu dans une maison catalogue dans les Yvelines, voilà, à Plaisir les Gâtines. Il y avait trois modèles dans le lotissement.
Il y avait trois modèles, voilà.
Ouais, c'était drôle, mais c'était des bons souvenirs.
Peut-être que ces futurs habitats vont dire quelque chose à nos auditeurs, peut-être qu'ils y vivent. Par exemple, il y a eu les corons nordiques, il y a les maisons à colombages strasbourgeoises ou encore nos maisons écologiques. Là, on est dans le présent futur. Allez, on poursuit notre balade architecturale tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut, sauf sur RTL tous les soirs de 20h à 22h, surtout quand on décide de scruter l'histoire de nos maisons, de nos appartements, de notre habitat. Alors si vous nous rejoignez, ben, vous avez raté 40 000 ans d'histoire puisqu'on a commencé dans des grottes, il faut nous réécouter en podcast. Et puis là, on est dans l'habitat d'aujourd'hui à partir des années 70-80. On était en région parisienne, on va se balader un petit peu dans les régions françaises pour voir s'il y a des habitats régionaux qui sont vraiment typiques. Par exemple, dans l'est de la France, on commence par l'est, vous allez nous raconter l'histoire des maisons à colombages, Cécile Guibert-Bruxelles.
Alors, les maisons à colombages, en fait, on est en Alsace. Mmh. Et à cette époque, on est à Strasbourg, précisément, dans le dessin qu'on a fait. Et Strasbourg est une ville de canaux. Il y a beaucoup de tanneurs, de meuniers. Enfin, l'artisanat est plutôt tourné autour de la rivière. Donc, ils construisent, en fait, pour avoir le moins de place au sol et prendre de la place en haut. Donc, ils font des maisons à encorbellement. Le sol est construit en pierre pour protéger de l'humidité. Et après, ils sont en saillie. Et plus vous êtes riche, plus vous avez d'étages au-dessus de votre maison. Mmh. Donc, c'est comme un squelette en bois qui est rempli plus haut de... Voilà.
Les colombages, c'est quoi, en fait, quand on dit maison à colombages ?
Maison à colombages, c'est comme un squelette en bois. Vous avez des poutres qui sont installées en hauteur ou en verticale, pardon, en hauteur ou à l'horizontale. Mmh. Et en fait, elles sont faites chez le charpentier qui arrive dans la ville et qui les installe au dernier moment.
Et les maisons à encorbellement, ça marche un peu sur le même principe ?
Ah, c'est pareil,
c'est un synonyme.
Non, c'est pas du tout un synonyme, je vous dis n'importe
c'était
quoi.
Deux types
colombage,
de
c'est les squelettes en bois, et encorbellement, c'est ce dont je vous explique. En fait, c'est quand la maison s'élargit, qu'elle est en saillie. Pardon.
Ah, ouais, d'accord, on a un peu tout mélangé là.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut voir sur les façades de ces maisons ?
Alors, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elles étaient très décorées. Il y avait les poutres qui étaient sculptées, les poutres en bois, elles étaient peintes et il y avait aussi des enseignes. Alors, selon que vous soyez tailleur ou je ne sais quoi, l'enseigne vous assurait de comprendre. Il y avait un ciseau ou quelque chose qui vous renseignait sur le métier de l'artisan.
Pardon, alors, largué, moi. L'image que j'ai, c'est la maison où on voit effectivement les poutres en bois plutôt sombres qui sont apparentes sur la façade.
Oui, c'est ça.
Moi, je pensais que c'était les maisons à colombages.
C'est une maison à colombages, vous avez raison. Ah, mais elles sont à colombages et à encorbellement.
Mais encorbellement, c'est la structure intérieure,
en fait,
c'est le squelette.
Non, encorbellement, c'est le principe que le rez-de-chaussée soit moins large que les étages supérieurs.
D'accord, ça y est. Voyez, non, mais ça infuse lentement parfois. Voilà. Bon,
moi, j'ai une idée, on va changer de région.
Pas de
peu l'air, on va passer de l'air.
Je voulais dire que j'ai besoin d'un peu d'air dans mon cerveau, ça.
Au
merci, Sidonie, ça fait vraiment plaisir, on se sent soutenu.
Tiens, on part découvrir les corons.
Ah, les corons, c'est un
l'habitat
peu...
L'habitat vraiment spécifique du nord de la France, c'est quoi l'histoire des corons ?
Ah, l'histoire des corons, c'est très beau, en fait. Écoutez, dans le nord de la France, il y a des mines, et il n'y avait absolument aucune habitation, et les entreprises avaient besoin d'attirer des populations souvent rurales pour venir travailler. Donc, en plein... champs, il n'y a absolument rien. Ils ont construit les corons qui étaient la propriété de l'entreprise et ils ont logé les habitants. Donc c'était un habitat précaire. Ils le construisaient, on appelait ça des barreaux, c'est-à-dire qu'il y avait 40 maisons collées les unes contre les autres qui étaient toutes pareilles en briques rouges. C'était précaire, mais il y avait une grande solidarité et c'était parce que c'était très dur. Je veux dire, ils travaillaient de 4h du matin jusqu'à 20h dans les mines. Et derrière chaque maison, il y avait un carin, c'est-à-dire un petit, il y avait les clapiers, tous les de quoi stocker la buanderie et un petit potager. Donc, en fait, les corons, c'est la solidarité dans l'habitat. C'est ça qui est très chouette.
Et si on pousse la porte d'un coron, c'est organisé comment ?
Alors, vous avez une pièce principale avec seulement une fenêtre et la porte sur la rue. Vous avez le poêle où il y a le café qui chauffe toute la journée. On frappait au mur, on entendait les voisins sur 3 maisons. Donc, pour vous dire que c'était quand
fallait
même...
fallait mieux s'apprécier.
Voilà, au niveau acoustique.
C'est vraiment des petites
voilà.
maisons.
Et il y avait l'étage où il y avait une chambre, pas de chauffage, à peine de lumière. Mmh. Enfin, il n'y avait pas d'eau. Les toilettes étaient dans la petite maisonnette derrière qui s'appelait le carin. C'était quand même primaire.
On est dans ce qu'on appelle le paternalisme industriel, comme dans les habitations à bon marché dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça existait aussi dans les HBM ?
Oui, exactement. On est dans le coron appartenait aux propriétaires de l'usine. C'était pas si les ouvriers quittaient, ils quittaient leur maison, ils n'en étaient pas propriétaires. Ouais. Ça a changé plus récemment, mais à l'époque. Et certains HBM appartenaient aussi à des propriétaires qui avaient fait les fameux services avec buanderie,
c'est ça,
crèche.
Qui proposaient tout un système.
Parce que les corons, ils ont dû ouvrir des écoles. Enfin, il n'y avait rien. Donc, ils ont créé aussi tout ce qu'on appelle un système social, en fait.
Et on découvre tout ça dans le livre que vous publiez, Où vivent les hommes, une histoire de l'habitat, avec les dessins de Lise Herzog. C'est aux éditions du Patrimoine. Et sur ces dessins qui sont très, très bien détaillés, on voit par exemple les femmes et les enfants qui vont chercher de l'eau. Ça s'appelait comment? La borne fontaine?
La borne fontaine du village. Alors, la petite ruelle s'appelait la Voyette. Bon. Et en fait, effectivement, comme ils avaient besoin d'eau tout le temps, ils allaient la chercher. C'était la corvée d'eau qui faisait tout le temps, mais qui a dans beaucoup d'époques d'ailleurs.
Et là, on est encore dans les corons à propos de ces habitats, ce paternalisme industriel. On avait fait une émission sur le familistère. C'est la même histoire, et c'est assez intéressant de voir comment finalement on est à la fois dans une volonté d'entrepreneurs d'améliorer l'habitat de leurs ouvriers, et en même temps c'est un moyen de les garder, sous la main.
C'est un habitat gratuit, c'est ambivalent. On a la main sur tout le monde.
Alors le temps a encore filé en votre compagnie, et là on part découvrir la maison écologique. C'est pas la maison de tout le monde, ça?
Non, celle-là elle est magnifique.
Pas encore,
mais
c'est
on
un
espère.
Magnifique projet.
Ouais, elle est magnifique. Et
vous me la décrivez, cette maison d'Hélène?
Alors je peux vous la décrire. En fait, elle a un principe, elle est très grande. Elle a du bois parce que c'est un matériau recyclable et renouvelable. Elle est ouverte complètement côté soleil et elle est fermée complètement côté nord, ce qui est le principe d'une maison écologique. Donc évidemment, elle a tous les systèmes qui font qu'elle a le photovoltaïque, le recyclage de l'eau de pluie, enfin tout ce qui fait que vous n'utilisez pas d'énergie quand vous en voilà, vous avez l'énergie solaire, etc.
Un compost dans le jardin.
Un compost dans le jardin, une piscine naturelle, c'est-à-dire où vous avez des joncs, des...
C'est quoi une piscine naturelle?
Alors une piscine naturelle, c'est vous n'avez pas besoin d'eau de Javel, ce sont les plantes qui nettoient votre piscine.
Donc il y a des plantes dans notre piscine?
Il y a une partie de la piscine où vous baignez, une partie de la piscine où les plantes sont plantées. C'est beau, les plantes sont plantées. C'est extraordinaire et c'est très beau
parce que
la piscine ressemble à quelque chose de très sauvage. Mmh. C'est magnifique.
Quand vous dites complètement ouverte côté sud, ça veut dire baie vitrée?
Exactement, vous avez des baies vitrées sur toute la façade côté sud, ce qui permet en général non seulement de chauffer la pièce naturellement, mais les murs des pièces sont constitués de matériaux qui vont emmagasiner la chaleur.
Bon. Elle me plaît bien, vous la vendez combien? Votre maison écolo?
Je sais pas, mais bon, ça dépend où elle est.
Elle est déjà dans votre livre.
Voilà, elle est déjà dans mon livre. Ouais.
Les hommes, une histoire de l'habiter avec Lise Herzog, c'est aux éditions du Patrimoine. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Et puis vous publiez aussi La vie en architecture aux éditions Actes Sud Junior. Encore un très beau livre. Dis donc, vous adorez ça, les beaux ouvrages où on peut se voyager, où on peut voyager agréablement en couleur.
Oui, en couleur, il est très beau et en dessin. Il est pour des enfants un peu plus grands, mais il est magnifique.
Merci à vous. À bientôt, micro de la curiosité.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous réécouter donc en podcast sur rtl.fr.
On se retrouve demain à 20h avec les portraits de ceux qui sont nés un 21 juin. Mmh. Un destin, la Pompadour, reine des Lumières. Et puis aussi, ça n'a rien à voir, un tour du monde à moto. Belle soirée à vous, les amis.
Je prends mon casque. Allez, tout de suite, c'est l'heure des infos avec RTL Grand Soir. RTL, il est 22h.
Vous écoutez RTL.